Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous retrouvons le sociologue spécialiste de la jeunesse, Olivier Galland, qui publie une étude largement commentée, La tentation radicale, enquête auprès des lycéens aux presses universitaires de France. Vous êtes rejoint par Marc Ecker de l'IFRI. Marc Ecker, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez 137 nuances de terrorisme, les djihadistes de France face à la justice. Je précise d'emblée qu'il n'y a évidemment pas de lien de continuité entre les tentations radicales que vous observez, notamment chez les jeunes musulmans de votre échantillon, Olivier Galland, et le passage à l'acte. Il y a une chose qui est certaine en sociologie, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, que évidemment, la vision radicale du monde est une condition nécessaire mais non pas une condition suffisante de la violence. Néanmoins, pour présenter cette étude de mener donc avec Anne Muxel, Olivier Galland, une étude qui donne dans l'échantillon de jeunes musulmans que vous avez étudié une vision donc assez noire, puisque un tiers environ se révèle favorable ou en tout cas on va dire en accord avec un discours assez violent, par exemple contre Charlie Hebdo, approuve la violence dans le cas où celle-ci heurterait leurs convictions religieuses. Votre étude a été critiquée, notamment par Patrick Simon de l'INED. Lui considère, par exemple, que si vous aviez enquêté auprès des classes moyennes musulmanes, vous n'auriez pas obtenu les mêmes résultats et par conséquent que vous avez minoré finalement la question sociale en la reléguant au second plan, alors que la question religieuse ne serait finalement qu'un sous-produit de cette question sociale. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je vais répondre à cette question. D'abord, quand même, il faut rappeler qu'une majorité, malgré tout, de jeunes musulmans n'adhèrent pas à des thèses radicales. Il ne faut pas laisser croire que l'ensemble des jeunes musulmans sont tentés par une radicalité extrême. Ce serait tout à fait faux. C'est quand même une minorité. Certes, une minorité significative et nettement plus importante que chez les chrétiennes, mais une minorité quand même. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur l'échantillon, en réalité, si vous voulez, notre échantillon effectivement est biaisé dans le sens où on a voulu surreprésenter les musulmans et les jeunes des classes populaires, mais malgré tout, il est diversifié. Et nous avons aussi des jeunes musulmans, des classes moyennes. En fait, dans l'échantillon des jeunes musulmans, si vous voulez, les différentes catégories sociales sont assez bien représentées. Et un des résultats assez forts de notre étude, c'est de montrer, alors on le montre statistiquement, que il n'y a pas d'effet classe sociale, si vous voulez, sur la radicalité religieuse. En tous les cas, il n'y a pas d'effet de classe sociale. Donc, il semble bien que ce soit que ça relève plus, si vous voulez, d'un phénomène culturel que d'un phénomène véritablement socio-économique.
Et si ça relevait d'un phénomène d'âge, parce que malgré tout, des mouvements de jeunesse violents, on en connaît. Moi, quand j'étais jeune, il y avait les punks, par exemple, il y avait des chansons qui appelaient à l'émeute, une chanson des Clash, par exemple. Et évidemment, si on brandissait ce que je pensais ou ce que je disais quand j'avais 16 ans, je rougirais. Est-ce que finalement, ça n'est pas aussi l'instrumentalisation de l'islam, comme le disait Olivier Roy, parce que l'islam, dans sa modification radicale, peut être perçu comme étant quelque chose d'anti-système. Est-ce que du coup, on n'a pas affaire finalement à des jeunes qui font en quelque sorte les frimeurs devant un enquêteur du CNRS et qui ne pensent pas réellement ce qu'ils disent ?
Oui, mais la question qui se pose quand même, c'est pourquoi les jeunes musulmans font les frimeurs et beaucoup moins les autres, si vous voulez. C'est ça quand même le point. C'est l'écart qui est très fort quand même, puisque c'est un écart de 1 à 5 ou de 1 à 6 entre les jeunes chrétiens et les jeunes musulmans. Alors l'effet de l'âge, pourquoi jouerait-il sur un groupe et pas sur l'autre ? Non, ça me semble pas suffisant malgré tout comme.
Alors quel est le lien que vous pourriez faire ? Parce que là aussi, Patrick Simon, par exemple, a été assez critique là-dessus. Il a considéré que vous pensiez qu'il y avait quelque chose d'intrinsèque à l'islam qui mènerait à la violence. Est-ce que pour vous, on est capable d'isoler cela ? Parce que là aussi, dans toutes les religions, il y a des vecteurs de violence qui peuvent être activés ou non en fonction de certaines circonstances sociales.
Tout à fait. Mais on est plus modeste que cela, si vous voulez, dans notre enquête. En fait, on a fait un travail statistique dans lequel on a introduit la variable religieuse et un certain nombre d'autres variables de contrôle sur le statut socio-économique des familles, le sentiment de discrimination, le malaise identitaire. Bon. Et lorsqu'on contrôle l'ensemble de ces variables, on voit qu'il reste un facteur religieux, de la confession religieuse, qui reste fort. Voilà. Simplement, notre enquête a des limites également. Hein. Voilà, maintenant, il faudrait explorer de manière plus approfondie quels sont les ressorts profonds de ce facteur lié à la religion musulmane. Et ça, c'est un peu la limite de notre étude, parce que si vous voulez, comme on a fait une étude qui porte sur l'ensemble des jeunes de différentes confessions et de différents milieux, on n'a pas pu creuser de façon extrêmement approfondie la question du rapport à l'islam. Il faudrait faire probablement maintenant une autre enquête spécifique sur les jeunes musulmans.
Alors, autre enquête dans un registre complètement différent, puisque là, il porte sur des gens qui sont passés à l'acte. Ce que vous avez fait, Marc Ecker, vous avez étudié finalement 137 profils d'individus qui ont été jugés pour terrorisme. Et là, parmi ces djihadistes, il y a une chose qui est certaine, c'est que la discrimination sociale, c'est-à-dire l'origine sociale des individus, est quand même marquée. On a affaire à des gens qui viennent majoritairement de milieux paupérisés.
Oui, il y a effectivement des facteurs récurrents, et parmi les facteurs récurrents, il y a l'origine géographique, les quartiers populaires, les quartiers prioritaires qui sont très largement surreprésentés dans mon échantillon. On voit d'autres éléments comme la faible éducation, 47% de non-diplômés, même pas le brevet des collèges dans mon échantillon. On voit également la faible intégration sur le marché de l'emploi, avec beaucoup de chômeurs, 36%, plus 22% de petits boulots intérimaires. Et puis on voit également le lien avec la délinquance, avec 40% de personnes déjà condamnées, généralement pour des faits de petite délinquance. Et puis l'élément le plus polémique, c'est le facteur migratoire, puisque j'ai 70% de Français qui n'ont qu'une seule nationalité, nationalité française, plus 22% de binationaux. Mais si on remonte à la génération d'au-dessus, à la génération des parents, on voit qu'il y a 60% de parents qui sont originaires du Maghreb.
Mais ce que l'on pourrait vous rétorquer, c'est que là aussi, le facteur social explique, dans les quartiers qui sont discriminés, le fait qu'il y ait surreprésentation de personnes d'origine étrangère.
Alors l'élément discrimination n'est pas forcément présent très fortement dans les discours des djihadistes à la barre, ni dans celui-même des avocats. Mais ce que moi j'ai plutôt noté, ce sont des dynamiques de groupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un quartier, une, deux, trois personnes s'en vont, il y a un effet de groupe qui se met en place, des copains d'enfance qui se mettent à partir ensemble. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des recruteurs dans certains quartiers. Et si les recruteurs sont présents dans certains quartiers, c'est parce qu'ils pensent aussi qu'il va y avoir un écho à leur discours dans ces quartiers-là.
Réseau de sociabilité, et puis là aussi, malgré tout, des profils qui sont des profils assez semblables. Il faut insister là-dessus parce que on a vraiment affaire à des parcours qui sont des carrières de petits délinquants qui, à un moment, pour différentes raisons, deviennent en quelque sorte des born again, dirait-on en anglais, c'est-à-dire considèrent qu'ils peuvent abandonner cette mauvaise vie contre une bonne vie qui serait une vie religieuse et qui les mène à des carrières de terroristes. Est-ce qu'on peut dire ça ainsi, Marc Ecker ?
C'est là qu'il faut mettre en regard la demande de radicalité et l'offre de radicalité. L'offre de radicalité du moment, c'est celle de Daesh et d'Al-Qaïda. Et Daesh a particulièrement compris qu'en insistant sur le côté rédemption, le côté renouveau par le djihad, il pourrait attirer des anciens délinquants en leur expliquant que le passé, la djahiliya, le passé délinquant, le passé dissolu, pouvait être effacé au profit d'une nouvelle vie de djihadiste. Ils vendent le côté vraiment salutaire du djihad et ça a l'air de marcher.
Ça a l'air de marcher pourquoi, selon vous? Lorsque vous étudiez donc cet échantillon, vous montrez assez bien que la notion de loup solitaire est une notion qui est fantaisiste, même si malheureusement elle est encore brandie par des responsables politiques. C'est-à-dire qu'on a un effet d'entraînement pour se lancer dans une carrière. J'emploie le terme de carrière à dessein parce que en sociologie, y compris pour des carrières de gens criminels, on considère qu'on a affaire à une ambition comme si c'était finalement une profession comme une autre, Marc Ecker.
Il y a un peu de ça, mais évidemment, c'est qu'une des parties de l'explication. Mais c'est vrai qu'en sociologie, on parle aussi souvent de rétribution symbolique du militantisme. Et là, il y a une
rétribution. Il faut définir ce que cela signifie.
Ça veut dire qu'il y a effectivement des avantages à rentrer dans une carrière militante, des avantages symboliques, parfois aussi des avantages matériels. Là, on retrouve les deux. C'est-à-dire que quand vous voyez les jeunes qui sont partis en Syrie, effectivement, ils n'étaient pas grand-chose ici, avec un destin souvent qui était bouché. Et là-bas, ils ont occupé des positions importantes. Quand on est membre de la police islamique de Daesh à Raqqa, on a un vrai pouvoir. On voit aussi sur les réseaux sociaux ces jeunes qui mettaient en avant les voitures qu'ils obtenaient, les villas dans lesquelles ils vivaient, la vie parfois assez agréable qu'ils menaient avec des piscines et ce genre de choses. Effectivement, on voit
qu'ils croyaient mener.
Qu'ils croyaient mener, effectivement, ça s'est mal terminé pour la quasi-totalité d'entre eux. Mais pendant quelques années, pour certains d'entre eux, ils ont mené une sorte de parenthèse où ils ont occupé un rôle très important.
Justement, Olivier Galland, est-ce que là, il n'y a pas une manière de montrer que finalement, le facteur social pèse de manière particulièrement importante? Parce que si on prend l'échantillon de jeunes chrétiens que vous avez analysé, il ne peut pas y avoir le même sentiment de frustration ou de discrimination.
Oui, alors je ne crois pas que cette étude soit contradictoire avec la nôtre. Parce que si vous voulez, si on était parfaitement rigoureux pour mesurer le facteur social chez les djihadistes, il faudrait comparer des djihadistes, alors d'origine étrangère, probablement musulmans, à des non-djihadistes, voyez, de même niveau social, pour voir si le facteur qui joue, c'est véritablement l'origine ethnique ou la confession musulmane, ou le fait d'être d'un niveau social défavorisé.
Voyez. Alors, parce que 70% de ces djihadistes étudiés par Marc Ecker sont français.
Oui, oui, tout à fait.
Et ils sont français, et le fait de voir si, sur un échantillon de même catégorie sociale, donc aussi paupérisée, puisque ceux que vous avez étudiés, Marc Ecker, sont finalement issus de milieux extrêmement modestes, et il faudrait voir dans quelle mesure la solution djihadiste leur est proposée de la même façon, et on sait bien qu'elle n'est pas proposée de la même façon, c'est-à-dire que, en fonction de votre origine sociale, on va vous proposer différentes carrières. Est-ce que là, il n'y a pas encore une fois un biais, Olivier Galland ?
Oui, je ne sais pas, mais encore une fois, si vous voulez, ce qui est important, c'est de contrôler le facteur social, et je pense qu'effectivement, si vous voulez, il n'est pas du tout évident que ce soit ce facteur social qui intervienne de manière absolument décisive. Au fond, est-ce que ce n'est pas la confession religieuse, malgré tout, qui est le facteur déterminant?
Qu'en pensez-vous, Marc Ecker?
Je ne crois pas non plus que nos études soient contradictoires, et j'aimerais insister sur le fait qu'à chaque fois, j'ai des petites majorités. C'est-à-dire, je ne parle pas de profil type, je ne parle pas de portrait robot. Ce sont des expressions qui sont reprises dans les médias, mais qui ne viennent pas de moi. Je pourrais parler de portrait robot ou de profil type s'il y avait 95% de mon échantillon qui correspondait à certains critères, mais ce n'est pas le cas. Donc effectivement, quand on voit qu'il y a 40% de personnes qui proviennent d'un quartier prioritaire, c'est bien plus que la moyenne nationale, mais on ne peut pas avoir de déterminisme social. Donc là, je pense qu'il faut être effectivement prudent et puis aller au-delà des aspects sociaux qui, évidemment, n'expliquent que partiellement et ne justifient rien du tout. Et prendre en compte également des aspects religieux et autres.
Et aussi un aspect de rapport à la violence, puisque donc le fait d'être un petit délinquant, petit ou grand délinquant, d'ailleurs, lorsqu'on est braqueur, on a l'habitude d'utiliser des armes, Marc Ecker, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que cela permet de s'habituer à la violence. Et là aussi, on sait très bien en sociologie, quelle que soit d'ailleurs la question qu'on se pose, qu'on a des processus d'habituation qui permettent donc d'ingérer une dose progressive de violence jusqu'au moment où on peut commettre des actes absolument abominables sans avoir l'impression de commettre des actes abominables.
Oui, ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, la socialisation à la violence criminelle facilite le passage vers la violence terroriste. Et puis, il y a aussi des questions de réseau, notamment qui peuvent se créer en prison, avec des djihadistes qui vont rencontrer des criminels, qui vont s'endurcir en prison, qui vont obtenir des moyens de se fournir en armes, de se fournir en faux documents. Et évidemment, il y a une liaison extrêmement importante qui facilite le passage à la violence.
Olivier Galland.
Oui, alors là, d'ailleurs, nos résultats sont tout à fait congruents avec ce que dit Marc Ecker, puisque on montre que pour expliquer la justification de la violence religieuse, hein, on pose une question dans notre enquête, est-ce qu'il est acceptable de combattre les armes à la main pour sa religion? on voit que le facteur de socialisation à la violence est un facteur prédictif très très fort de cette tolérance à la violence religieuse. Donc on voit un lien effectivement très très fort dans notre enquête entre, on va dire, la socialisation à la violence ordinaire dans la vie sociale et l'acceptation de la violence religieuse. C'est vraiment il y a un facteur 6 entre ceux qui ont le niveau le plus faible de tolérance à la violence ordinaire et ceux qui ont le niveau le plus élevé pour expliquer la tolérance à la violence religieuse. Donc c'est tout à fait congruent avec ce que dit mon collègue.
Marc Ecker, est-ce que vous avez des idées, des points de repère par rapport à d'autres formes de terrorisme? Parce que là aussi, on a dans l'histoire l'embarras du choix sur le passage à la violence. Il y a eu une violence d'extrême droite, il y a eu une violence d'extrême gauche. Bref, est-ce que vous êtes capable de voir par rapport à cette violence djihadiste, parce que comme vous le dites très bien, c'est aujourd'hui l'offre principale qui est disponible, malgré tout, est-ce que vous pouvez faire des points de comparaison?
Malheureusement, je n'ai pas de point de comparaison. Je n'ai pas fait d'études systématiques sur les anarchistes à la fin du 19e siècle ou sur les membres d'Action Directe ou autres. Donc j'ai travaillé sur les procès récents. Et effectivement, en matière de terrorisme, les procès récents, ce sont des procès de djihadistes. Je ne sais pas si... dans l'ancien temps, on avait le même type de profil qui se dégageait.
En tout cas, il y a une différence notable, et là aussi on le voit très bien dans votre étude 137 nuances de terrorisme, c'est Internet qui a complètement bousculé la donne.
Alors, Internet a joué un rôle intéressant parce qu'il a créé une décentralisation de la mouvance. Internet parvient partout, y compris dans les zones rurales reculées, ce qui fait que quand on prend la carte de France des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, on voit qu'il y en a effectivement sur tout le territoire national.
Et on voit aussi, et là ça va de pair, Olivier Galland, avec un autre phénomène que vous avez clairement observé, la défiance par rapport aux médias, qui sont les médias traditionnels, est nourrie par la consultation d'un certain nombre de sites et par une sorte d'atmosphère complotiste qui probablement auparavant ne pouvait pas s'épanouir de manière aussi naturelle.
Oui, tout à fait. Ça nous a beaucoup frappé. Et d'ailleurs, ça dépasse largement la question des jeunes radicalisés ou tentés par les idées radicales. Il y a une défiance absolument phénoménale à l'égard des médias dans la jeunesse. Et donc, il y a l'idée chez ces jeunes qu'il faut se construire sa propre vérité. On est vraiment dans l'ère de la post-vérité, là. Ils veulent construire une posture critique, ils ont une posture critique. Ils sont pas passifs face à l'information. Ils sont des acteurs, mais des acteurs qui sont extrêmement défiants à l'égard des médias traditionnels et qui bricolent leur propre vérité en piochant ici ou là. Et évidemment, en grande partie sur Internet, les éléments qui vont leur permettre de construire cette vérité personnelle, cette vérité individualisée. Et évidemment, ça, c'est très favorable au développement et à la perméabilité aux thèses complotistes.
Et cela veut dire que lorsque ces individus ont ce type de représentation, Marc Ecker, il est extrêmement difficile de leur faire sortir ces idées-là de leur tête, ce qui veut dire que la récidive, l'action qui pourrait être l'action pédagogique, je mets vraiment cela entre guillemets, de la prison, est une action qui ne remplit pas véritablement son rôle.
Non, j'ai effectivement plusieurs récidivistes dans mon échantillon, à la fois des personnes qui ont purgé une peine de prison pour terrorisme en France et qui ensuite sont parties en Syrie, mais également des individus, deux en l'occurrence, qui ont purgé une peine de prison pour terrorisme en France et qui ensuite ont perpétré des attentats en France. Chérif Kouachi, notamment, un des tueurs de Charlie Hebdo, et Larossi Abala, le tueur de Magnanville. Actuellement, la prison sert surtout à mettre à l'écart ces individus pendant un certain temps. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de programme, entre guillemets, éducatif, pour reprendre votre terme, des programmes de désengagement, voire de déradicalisation qui sont mis en œuvre. Mais évidemment, si on ne fait rien, ces individus ne vont pas se désengager ou se déradicaliser tout seuls.
Est-ce que ça veut dire que la déradicalisation a été un mythe, Olivier Galland ?
En tous les cas, il semble qu'elle était plutôt un échec. Mais moi, je crois beaucoup là, au rôle de l'école, si vous voulez. Ce qui était frappant, vous savez, au moment de la minute de silence, la fameuse... c'est de voir le désarroi des professeurs devant les réactions de beaucoup de leurs élèves. Ce qui montre que ces professeurs, au fond, connaissaient mal leur public. Et donc moi je crois, alors nous on n'a pas fait qu'une enquête par sondage, on a aussi discuté avec ces jeunes, et je crois que c'est très important de faire parler ces jeunes, de les écouter, de débattre de façon argumentée et contradictoire. Et ça, on le fait très peu dans le système éducatif français, si vous voulez, qui est un système extrêmement vertical, où on délivre des connaissances. Donc là, je crois qu'il y aurait un rôle éducatif à jouer pour l'éducation nationale qui serait extrêmement important.
Marc Ecker.
Il y a sans doute aussi des actions d'éducation à faire en prison, parce que quand on voit les critères que je listais avant, l'éducation très faible, la faible employabilité de ces personnes, le passé délinquant, etc., on voit que ces gens-là sont mal partis de toute manière. Ils auront du mal à se réinsérer. Mais si en plus vous ajoutez le facteur terroriste, là ça devient encore plus difficile. Donc je pense qu'il y a vraiment des actions multiples à mener en prison auprès de ces individus, et notamment des actions d'éducation.
Ce qui est quand même une grande distinction par rapport au terrorisme d'extrême gauche, je pense à celui de la bande Al-Badr ou d'Action Directe, où là on avait affaire à bien souvent des trajectoires d'intellectuels qui versaient dans la lutte armée. Et dans l'échantillon que vous avez, on a vraiment affaire à des individus qui ont été extrêmement paupérisés, discriminés, humiliés. Bref, ce sont quand même des facteurs qui sautent aux yeux quand on prend votre échantillon de 137 personnes.
Encore une fois, ce sont des petites majorités. Donc j'ai quand même des exceptions. J'ai un docteur en physique dans mon échantillon, un ingénieur, plusieurs bacheliers. Donc il y a une petite majorité qui correspond à ce que vous dites.
Pardonnez-moi de vous couper, ce sont les plus anciens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus le recrutement progresse dans le temps, plus on a affaire à des gens qui sont non éduqués, paupérisés. On sait très bien que les terroristes du 11 septembre 2001 étaient des gens extrêmement éduqués. En revanche, Larossi Abdallah, l'homme qui a perpétré l'attentat de Nice, bref, tous ces gens-là sont des gens qui sont en rupture de blanc sur le plan scolaire.
Puisque vous mentionnez Larossi Abdallah, son émir, le chef du groupe, était un ingénieur. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avec Daesh et les générations les plus récentes, il y a eu une masse d'individus qui ont rejoint ces mouvances djihadistes. Et effectivement, quand on a une masse d'individus qui rejoignent, ben vous avez une masse d'individus qui sont les soldats de base, entre guillemets. Mais vous avez aussi les cadres qui, eux, sont un peu plus éduqués et qui correspondent un peu moins à ces caractéristiques.
Olivier Galland, ce qui rend finalement assez pessimiste, c'est que on a beaucoup de difficultés à lutter contre des idées. On peut les interdire, mais en réalité, on sait très bien que ça n'a absolument aucune conséquence.
Dans une démocratie libérale, on n'interdit pas les idées.
Et on sait aussi qu'on a bien du mal à fournir des argumentations, bref, à faire en sorte que les individus pensent autre chose que ce qu'ils pensent. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les individus ne sont pas facilement manipulables.
Non, bien sûr, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je crois quand même que sur ce plan, le rôle de l'école serait extrêmement important. Vous savez, en France, on a une conception de l'école qui consiste essentiellement à délivrer des connaissances. Et le rôle éducatif est dévolu aux familles. Voilà. Simplement, il y a un certain nombre de familles. Des familles en difficulté, des familles de niveau socio-économique ou culturel assez bas, qui ont du mal, ou qui même échouent totalement à jouer ce rôle éducatif. Donc je crois que là, il y a une révolution culturelle quand même à faire. Et ça existe dans les pays du Nord. Dans les pays du Nord, l'école joue ce rôle d'éducation à la citoyenneté. Et je crois qu'il faudrait vraiment le prendre de plein pied en France.
Ce qui inciterait peut-être également à une politique de mixité scolaire beaucoup plus volontariste.
Alors bien sûr, parce que ça c'est un élément aussi important. Dans certains des lycées où on a enquêté, en région parisienne, dans les quartiers nord de Marseille, on a 80% dans certains de ces lycées de jeunes d'origine étrangère et de confession musulmane. Donc une sorte là de concentration ou de ségrégation ethnique qui est évidemment un facteur extrêmement défavorable.
Marc Ecker.
La même concentration, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais enfin une concentration très forte dans les prisons. Et donc là aussi, effectivement, il faut essayer de trouver un moyen pour au moins faire entrer des intervenants extérieurs qui permettent de donner une autre vision du monde.
Mais là aussi, vous dites malheureusement que la prison, c'est un lieu où l'on sépare les individus, on les empêche de nuire, en tout cas pendant le temps où ils sont en prison, mais qu'on n'a pas véritablement de programme curatif, si je puis employer ce terme.
Oui, j'aime pas le terme curatif parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à une maladie. Or, on est vraiment sur un phénomène qui est politique et religieux et social avant tout. Mais il faut pouvoir développer des programmes, parce que si on ne le fait pas, ça ne va pas s'arranger tout seul. Donc, il y a eu beaucoup de critiques dans les médias sur les programmes de désengagement, de déradicalisation, après l'échec du centre de Pontourny. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est obligé de poursuivre dans cette voie-là, de faire des expérimentations. Ce sera du tâtonnement, mais si on ne le fait pas, ça ne va pas s'arranger tout seul.
Marc Ecker, 137 nuances de terrorisme, les djihadistes de France face à la justice, c'est donc publié par l'IFRI, le Centre des études de sécurité. Et puis l'étude que vous avez publiée, Olivier Galland, avec Anne Muxel, la tentation radicale enquête auprès des lycéens aux presses universitaires de France.